du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
On est de retour autour de la table en ce dimanche matin, numéro 607 du coq à l'âne avec notre invité Jean-Marie Bernard. Vous les avez entendus, ils se sont un petit peu chauffés, Christian Bouteillon, Jean-Claude Hérault, ouais. Michel Roussel donc qui est avec nous aussi.
Bonsoir.
On est toujours sur...
Non, bonjour.
Mais c'est pareil, on s'en fout. Non, parce que les gens le savent. Oui. Les gens le savent qu'on ment.
Arrête de mentir.
Nous ne sommes pas dimanche matin, les enfants.
Oui. Hein,
nous sommes vendredi soir. Mmh. Voilà. Donc nous enregistrons le vendredi soir et vous nous écoutez le dimanche matin. Donc on n'est pas capable de vous dire si ça s'est bien passé encore une fois
l'acte
samedi.
L'acte 5.
Voilà, l'acte 5. Bon, on va parler des gilets jaunes encore une fois. Et moi, je voudrais mettre le doigt avant de parler argent, parce que je sais que tu as envie d'en parler, Christian, d'argent.
Non, pas spécialement.
Si, je sais.
Quand le président n'est pas là, tu n'arrives pas nous dire.
Voilà. Vivement que le président soit là, que je puisse l'attaquer sur.
Il paraît qu'il va rendre un peu de foncier. Eh ben, en fin d'un
on en parle dans un
instant. Tu te déballonnes.
Je voudrais seulement la position des Gilets jaunes sur la légitimité du président. Bon, ce n'est pas une nouveauté depuis son élection. On parle souvent de ça, vous l'avez noté. Alors, je ne parle pas des abrutis hein, qui ont imaginé que notre constitution avait été annulée suite à un décret de Manuel Valls en décembre 2016. Vous avez suivi un petit peu cette histoire, un truc complètement hallucinant. Non, on parle ici du fait que les électeurs ont voté contre Marine Le Pen et pas pour Emmanuel Macron. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà vécu cela avec Jacques Chirac face à Papa Le Pen. Hein. Ouais. On avait voté Chirac mais bien en plus, hein, 80%.
Il y a moins de risques quand même.
Oui, ah ben, oui, mais bon, tu ne savais pas quand tu as voté. Ouais. Tu ne savais pas, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Ouais. Tu ne sais pas ce qui peut se passer.
Ah oui,
on ne sait pas. Alors d'où le sentiment qu'il n'est pas légitime. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'est pas légitime et qu'en plus, peu ont voté pour lui. Alors moi, je me suis intéressé un peu à ça et j'étais voir justement Jacques Chirac, Jospin, 1995. Vous en souvenez ? Vous en souvenez ? Alors, 2 millions de bulletins blancs ou nuls au deuxième tour. 2 millions, d'accord ? Premier tour, Chirac, 6,3 millions. Jospin, 7 millions. Deuxième tour, 15-7-14. Ok ? Chirac l'emporte. Et j'ai fait la comparaison avec Macron-Le Pen. Macron-Le Pen, 4 millions de bulletins blancs ou nuls, donc le double, d'accord ? Macron au premier tour, 8,6. Le Pen, 7,6. Deuxième tour, 20,7 contre 10 pour Le Pen. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas plus aujourd'hui de légitimité pour Chirac face à Jospin que pour Macron face à Marine Le Pen. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez.
Mais moi, je
ne
comprends pas ce discours de légitimité. Bah
oui, pour moi, ça ne se pose pas. Il a été élu président de la République. Il est président de la République.
Mais on n'entend que ça, Jean-Claude.
Non, mais c'est bon. Mais on entend plein de propos complotistes aussi.
Ah non, mais non, là, je ne te parle pas de ça. Moi, je ne te parle pas des complots, là.
Non, mais là,
je te parle de ce que
il est légitime, point. Il doit finir son mandat. On est dans une république, une démocratie. Il faut être respectueux de la Constitution, point, quoi.
Mais quand tu entends les gilets jaunes que tu défends...
Je ne les défends pas surtout.
Non, mais quand tu les entends, les gilets jaunes, te dire « Nous, on s'en fout, on veut qu'ils s'en aillent. »
Mais dis des conneries.
Mais voilà, regarde notre exemple.
Je dis clairement.
Regarde notre exemple.
Voilà, oui.
On a la chance aujourd'hui d'avoir le président du conseil départemental qui a été
on n'est
élu
pas content.
Aussi bien avec des voix de
Jean-Marie,
droite que de gauche.
Jean-Marie, tu t'en vas.
Et on a augmenté les impôts de 25% de la taxe foncière. On n'a pas demandé sa destitution.
Bah non,
il est toujours président.
Non, non, on n'a pas demandé, mais on y réfléchit.
Alors justement,
Jean-Marie,
parlons-en.
Qu'est-ce que tu dis, Jean-Marie?
Je vous remercie d'abord.
On le respecte,
non, mais c'est vrai, ça serait bien que vous fassiez un geste, puisque Macron, il a fait un geste, que vous nous rendiez un peu de la taxe foncière.
Non, mais là, je suis
sérieux, vous avez pris comme argument que les histoires de migrants, tout ça, ça a coûté un pognon fou.
Non,
il en a pas parlé.
Non, j'ai jamais dit ça.
Un pognon
de
dingue.
Vous avez pas dit
1 million d'euros là, l'année dernière, un truc comme ça?
Mais
l'État n'avait pas pris sa part ?
Non, mais ça continue d'ailleurs.
Quand l'État vous aura remboursé, est-ce que vous le remboursez sur le foncier ?
Non, mais l'État me doit 150 millions. Il y a quasiment remboursé 140, je commencerai à m'intéresser à ton cas personnel.
Au cas de tout le monde.
Non, mais aujourd'hui, dans cette affaire-là, non, mais l'augmentation, puisque tu veux en parler, on a le droit d'être sérieux pendant
oui,
deux
sûr, bien sûr.
Donc, cette augmentation de fiscalité qu'on a mise en 2018, qui était importante. Sur la part de la taxe foncière, donc tous les propriétaires payent dans le département comme ailleurs d'ailleurs. Mmh. Bon, c'était parce que le département était à bout de souffle. À bout de souffle parce que les courts-circuits que l'État a fait dans les dotations aux collectivités, le département en a subi les mêmes les mêmes conséquences. Mmh. Dire chaque année, nous, l'État nous donne 8 millions de moins pour faire fonctionner le département. Mmh. 8 millions par an.
Et pourquoi vous réduisez pas les charges?
Attends.
Toi, tu crois.
Non, mais les charges, on les a réduites, mais il y a des moments où on ne peut plus les réduire après.
Il y a des charges incompressibles.
Et chaque année, je dépense pour le compte de l'État, au niveau du RSA, au niveau de l'APA et de la prestation pour le compensatoire pour les handicaps, on dépense 70 millions dans le département. 70 millions pour 140 000 habitants. Sur ces 70 millions, la règle de base, il y a 15 ans en arrière, c'était... Chaque fois que le département va dépenser 1 euro, l'État va lui rembourser 1 euro. Mmh. Aujourd'hui, sur mes 70 millions, l'État, au lieu de me rembourser 70 millions par an, me rembourse 52 millions. Mmh. Il m'en reste 18 que je mets à la charge de qui? Des Walpins.
Et oui.
Voilà.
Et de Christian Bouteille. Ça ne va pas s'améliorer.
Mais je veux dire, ces 18 sont perdus ou ils sont en cours de récupération?
Non, ils sont perdus.
Qu'est-ce que tu crois?
Au fil du temps, les gouvernements successifs, ils ont dit, maintenant, au lieu de rembourser 100%, on vous rembourse 90%, puis après c'était 80%, et maintenant, on est à 60%. Voilà. Donc, la situation du département était catastrophique. Et si on voulait continuer à assurer nos missions au travers des solidarités territoriales, parce que c'est vraiment notre mission, en dehors des solidarités envers nos concitoyens, la seule façon, c'était de remettre un peu du jus dans le fond du plat, et c'était la seule fiscalité sur laquelle on peut jouer, c'est la taxe foncière. Mmh. Alors, on l'a augmenté très fortement en 2018, mais je rappelle que 80% des départements français ont été obligés de faire ça.
Bah oui, tout le monde fait pareil.
Sauf que tu ne pourras pas l'augmenter toutes les années.
Non, on ne pourra plus l'augmenter.
Sauf que tu arrives à un moment...
Mais aujourd'hui, l'effort fiscal qu'on a demandé aux Alpins, globalement, il est de l'ordre de 12 millions d'euros. Ces 12 millions d'euros, ça correspond aux subventions que l'on distribue annuellement à l'ensemble des collectivités du département pour subventionner les écoles, tous les projets qui sont portés et aidés par le département. Donc, on avait deux choix. Le premier, c'est on ne fait rien, on arrête d'aider les collectivités. Ça veut dire que le maire de La Grave ou le maire de Rosan, là, il va se démerder pour financer son école ou l'aménagement de sa place.
Est-ce qu'on ne pourrait pas penser au privé maintenant, alors?
Et on n'avait plus cette possibilité d'agir sur le seul impôt qui reste au niveau du département, il a quand même une grande vertu. Il a une grande vertu parce qu'aujourd'hui, on est à Gap. Là. Si je vous dis que l'ensemble des Gapensés, dans cette augmentation de fiscalité, a contribué sur mes 12 millions, a contribué à hauteur de 2 millions ou 2 millions et demi. C'est les Gapensés qui, cette année, ont donné 2 millions et demi. Ces 2 millions, ils vont où? Ils vont sur l'ensemble du territoire.
C'est ce qu'on appelle la solidarité
territoriale.
Voilà. C'est la solidarité. Et nous, on l'a fait jouer au travers de la fiscalité départementale. Mmh. Demain, s'il n'y a plus le département, je vous garantis que ça va.
Tu as aussi la question des routes. Hein. Parce que si on arrête d'entretenir les routes, dans quelques années, il faudra beaucoup plus dépenser pour remettre nos routes à niveau. On a vu, il y a eu une émission à la télé sur les ponts, par exemple. Oui. Hein, c'est très intéressant. Donc moi, je pense...
Et
tout le monde sait de quelle étiquette, de quelle tendance je suis. Je ne me suis jamais caché.
Macroniste.
Je ne changerai pas. Je n'ai pas l'habitude de tourner ma veste. Mais bon, moi, j'entends ce que dit Jean-Marie. J'entends ce qu'il dit. Je pense que ce qu'il dit, c'est l'intérêt du département et des habitants du département. Après, ce qu'il faut dénoncer, c'est cette politique gouvernementale qui existait déjà... avant l'arrivée de Macron, hein, parce que là on parle de Macron, mais moi je me rappelle avoir manifesté, on était à côte à côte, du temps de Hollande, où il y avait déjà, notamment les collectivités territoriales avaient été à la loi NOTRe, etc.
Tout à fait.
Donc le danger qu'il y a, moi, il me semble, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on discute, c'est le risque de la disparition des départements dans les zones rurales. Aujourd'hui, un conseil départemental joue un rôle, Jean-Marie vient de le rappeler, hein, rôle de solidarité territorial. Si demain ils disparaissent, on va avoir une centralisation régionale, les métropoles qui prendront tout. Et nous, les départements ruraux, on risque d'avoir encore plus de problèmes. Bon. Donc moi, je crois qu'il faut soutenir l'action du département. On peut avoir des différences d'appréciation, parce que c'est normal, on est dans une démocratie. Mais sur ce coup-là, moi, je pense qu'il faut soutenir l'action du département, parce qu'elle est vitale pour l'avenir de notre département.
Le 18 décembre, on parle de quoi ?
Le 18 décembre, on parle des orientations budgétaires du département.
Ouais.
Et je vais redire à l'ensemble des conseillers départementaux et donc à l'ensemble des Walpins ce que je viens de vous dire, à savoir que nous, on a été élus sur cette dynamique-là, cette politique-là, pour dire le rôle du département, c'est de faire jouer les solidarités et d'assurer ce lien entre l'ensemble des territoires du département et l'ensemble de toutes les populations du département.
Absolument. Ça, c'est une évidence. Après, bon, il peut y avoir des différences à la marge, mais j'ai le sentiment que dans le département, il n'y a pas de forte opposition de ce que je vois de l'extérieur. Après, je ne suis pas suffisamment attentif, mais il me semble qu'il n'y a pas de forte opposition dans les conseillers départementaux.
Non, cette politique. Le discours, quand on l'explique rapidement comme je viens de le faire, mais tout le monde le comprend. Moi, je fais des réunions publiques dans tous les coins du département.
La prochaine, c'est à Vennes.
La prochaine est à Vennes.
Mercredi, 19. Voilà, je suis au courant.
Je vais redire aux Vénois, ceux qui seront là, les objectifs que poursuit le département et dont moi je suis garant. De toute façon, je dis ça naturellement, mais parce que j'ai toujours pensé ça et je ne changerai pas d'avis, même aujourd'hui, quand je suis président.
Et à propos de solidarité, on en est où avec CEUS ?
Ah ben CEUS...
C'est mort ? C'est plié, CEUS ?
Non, c'est plié pour cet hiver.
D'accord.
C'est plié pour cet hiver.
Qu'il y ait de la neige ou pas, ça ne fonctionnera pas.
Ça ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, CEUS, c'est un grand problème pour notre communauté de communes. C'est un grand problème pour Montaillé, parce que CEUS, ça reste CEUS. Mais aujourd'hui, la communauté de communes du BUH d'Évoluy, elle est dans l'obligation de présenter les avantages et les inconvénients, et surtout le bilan économique qu'on peut tirer de CEUS. Le bilan économique qu'on peut tirer de CEUS aujourd'hui, c'est quand c'est ouvert, comme l'année dernière, on fait du déficit. Et quand c'est fermé, qu'on veut essayer d'ouvrir, on fait du déficit.
Voilà.
Donc on voit bien que la situation ne peut pas perdurer. On ne peut pas faire du déficit vitam aeternam. Moi, il me semble que, sur ce point, on ne va peut-être pas être d'accord. Moi, je pense que s'arc-bouté sur absolument vouloir faire du ski à CEUS, même si je vais souvent y skier, c'est pas l'avenir. Quoi. L'avenir est ailleurs. Moi, il me semble que l'avenir, c'est de faire de CEUS un spot touristique. Avec, pourquoi pas, alors je sais que le maire de Gap, président de la communauté d'Aglo, n'est pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'à l'avenir, ça serait bien que la communauté d'Aglo et la communauté de communes du Dévoluy puissent se regrouper pour faire quelque chose avec CEUS. Alors je ne sais pas sous quelle forme.
Mais faire un téléphérique qui part de Sigoyer ou de Pelletier et qui arrive à la Falaise.
Moi, je crois
qu'il faut pas, un restaurant faut pas, panoramique.
Non, mais il ne faut pas faire des dépenses.
Il faut mettre des hôtels et tout.
Il ne faut pas faire des dépenses.
On pourrait faire un golf aussi.
Ouais.
Oui.
Mais il y a des choses à faire. Oui. Alors, mais avec la communauté d'agglomération.
Un centre d'oxygénation.
Oui.
Alors, aujourd'hui, on est en train d'évoquer une dernière piste, c'est savoir associer, parce qu'il y a des sociopros, il y a quand même quelques emplois qui sont intéressants sur CEUS. Donc, on est en train de monter une perspective avec les sociopros qui peut se résumer en deux mots. La première étape, c'est les collectivités, c'est-à-dire nous, la communauté de communes, qui assurons l'investissement qu'il faudrait faire. Donc, il faudrait investir pour minimiser un peu les risques sur CEUS. Il faudrait investir au moins un million et demi d'euros. Bon. Nous, la communauté de communes, on pourrait prendre l'engagement de faire cet investissement avec les aides qu'on aura ou qu'on n'aura pas, peu importe. À condition que derrière, il y ait une structure autour des socioprofessionnels qui serait capable, dans le long terme, pas pour un an ou deux, et au moins pour 15 ans, qui serait capable d'assurer la gestion à leurs risques et périls. Si on arrive, donc on travaille sur ce projet-là, si on arrive à trouver des socioprofessionnels intéressés, capables de répondre à notre appel d'offres que l'on va faire en début de l'année, peut-être qu'on relancera le projet d'équipement CEUS. Sinon, l'année prochaine, on sera obligé de faire un constat et on fermera CEUS. Ça m'ennuie profondément parce que, c'est dans mon canton, c'est dans ma communauté de communes, il faudra prendre des décisions.
Non, mais à des moments, il faut
il y a des moments...
Je crois que la famille Gaillard a décidé de passer l'éponge. Ils ont arrêté leur activité. Ils ont fermé l'hôtel complet.
Ils ferment. Si on ouvre les remontées mécaniques, ils sont encore là pour travailler.
Mais... Non, moi, je croyais que c'est carrément pris la retraite, que c'est plié bagage.
Conseil régional, ils ne soutiennent pas.
Non.
Non, il n'y a pas de soutien de ce côté-là. Donc, moi, il me semble qu'un grand projet... avec toutes les communautés de communes et la communauté d'agglo du Gapincé, Gap-Talard-Durance, permettrait peut-être de voir les choses autrement.
Et les fameux financements participatifs, c'est à la mode, ça.
Tu peux essayer, vas-y, lance.
Je pose la question.
Si vous constituez une SAS avec 4 socioprofessionnels qui mettent chacun 5 000 euros dans l'affaire...
Ça peut s'élargir, les petits ruisseaux font les grandes rivières, je veux dire. Je sais pas là. Je prends exemple puisqu'on a eu comment il s'appelle le conseiller départemental le truc photovoltaïque là. Tu parles de
Gérard Denon.
Gérard. Voilà. Donc ça marche pour le voltaïque.
Ouais, mais c'est à la marge. Ouais. C'est
des petits sous, on va dire.
Ouais, c'est des petits sous.
Voilà, voilà, c'est ça. Alors une autre fronde parce que là on n'a pas parlé de celle-là quand même. La fronde des lycéens. Excusez-moi.
commence pas, Thierry.
La fronde des lycéens, qui monte au créneau à cause de Parcoursup et de la réforme du bac. Hein. Loi votée en avril dernier, sans anicroche. Hein. Et puis, malgré ses ratés, à la rentrée, n'a absolument pas bouleversé plus que ça nos révolutionnaires lycéens, qui ont aussi mis en avant l'augmentation des frais d'inscription avant de se rendre compte en fait, que ce n'était pas pour eux, c'était pour les étudiants étrangers. Du coup, voyant que l'opinion rigolait un peu de leur positionnement bancal, les plus allumés ont appelé un mardi noir, hein, mardi dernier, qui sera tout au plus gris clair, avec 450 lycées contrariés sur les 5000 donc en France et quelques milliers de manifestants défilant avec leur cri de ralliement « Macron, t'es foutu !» Les lycéens sont dans la rue et leurs revendications « Détaxer le Biactol ou nous n'irons plus à l'école !» Je plaisante, bien sûr. À Marseille, ils ont défilé en chantant « Travaille, consomme et ferme ta gueule, c'est ça le message qu'on donne aux jeunes. » Véridique, hein. Et là, je me suis dit, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui sont absolument pas intéressés par la consommation et il attend bien sûr qu'on le guide vers les marques pour user et abuser de cette consommation. Alors moi, je te pose la question, toi qui n'es pas d'accord avec moi, bien sûr, parce que tu n'aimes pas quand je plaisante comme ça avec les lycéens, est-ce que c'est bien raisonnable le plan qu'ils nous font aujourd'hui, alors que s'il y avait vraiment un problème avec la loi qui est passée il y a quelques mois, pourquoi ils ne l'ont pas fait à ce moment-là?
Ils n'étaient pas contents il y a quelques mois.
Oh, allez. Tu es de mauvaise foi.
Non, je suis pas de mauvaise foi.
un peu quand même.
Moi, les lycéens, honnêtement, j'ai pas suivi de près. Je cache pas.
Leur mouvement.
J'ai pas trop compris leurs revendications, donc je vais pas m'engager dans une polémique que je maîtrise pas. Mais puisque tu parlais de Marseille, je dois dire que quand même, Marseille, il se passe des choses vachement graves, quoi, et on en parle jamais.
Oui.
On n'est pas très loin.
On n'en parle pas beaucoup. Qu'on n'en parle jamais, c'est qu'on en parle pas beaucoup.
Pas beaucoup. Quand je pense que le conseil municipal était convoqué la semaine dernière et qu'au dernier moment, le maire a annulé la séance du conseil municipal parce qu'aujourd'hui, il est très très mal par rapport à... Il a été effondré de l'effondrement, hein. Vous voyez ce que je veux dire.
Oui, il a eu du mal.
Et quand je vois qu'aujourd'hui, il annule son conseil municipal, franchement, à Marseille, il y a une situation... Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi. Je vous interpelle là-dessus parce que j'ai un peu lu des textes là-dessus. C'est quand même très, très inquiétant, quoi, ce qui se passe à Marseille, en matière de logement notamment, mais oui, pas, entre autres.
Mais encore une fois, là, on met le doigt sur un problème qui remonte à combien d'années en arrière.
Ça, c'est sûr.
Tu as vu le talent du politique. Tu lui poses une question sur les étudiants, il n'a rien à dire et il t'amène sur Marseille. Après, il te dit qu'il n'en fait pas de la politique.
Mais non, je n'en fais pas.
Alors, Fickelcro vient de qualifier les étudiants de petits crétins là, récemment. Là.
Ah oui, oui. Mais non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je vous avais mis un extrait de notre ami professeur Choron. C'était à l'époque où il faisait cette émission droit de réponse avec Polak. Et donc, il y avait eu des étudiants et des lycéens qui étaient là. Et
moi, je pense que...
C'est des petits cons.
Quand on a été étudiant, lycéen, etc.
Mais on est tous autour,
Il y a toujours eu des moments de fièvre comme ça.
Et bien sûr.
Donc, moi, ça ne me gêne pas. C'est la jeunesse, on est dans un pays libre.
Voilà, ouais. Sur ces bonnes paroles, eh bien, nous allons nous quitter.
On va pouvoir aller à la messe.
C'est à l'heure. Merci Jean-Marie Bernard d'être venu avec nous autour de la table. Merci les gars. Eh bien écoutez, on vous souhaite une bonne fin d'année puisqu'on se reverra. On se reverra un jour ou l'autre l'année prochaine. Hein, on se reverra l'année prochaine pour le retour du Coq à l'âne. Là, on va partir en vacances un petit peu. Bon, je vous rassure, on sera toujours ensemble. Notamment tous les matins, j'aurai le plaisir de vous accompagner jusqu'au 31 décembre, donc sur Alpe 1, dans le grand réveil entre 6h et 9h. En attendant, passez un bon dimanche. Et puis, ben, rendez-vous lundi matin. Merci messieurs. Merci, bonne soirée.
Ciao, ciao.
Et enfin, bonne journée maintenant. Bonne journée.
Bon
et à lundi.